La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, le prix Nobel a-t-il un sexe ? En 1673, le philosophe François Poulain de la Barre, cartésien, féministe, qui fut un temps prêtre de l'Église catholique puis un temps protestant, fit paraître anonymement un traité intitulé « De l'égalité des deux sexes, discours physique et moral » où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. Il y démontrait que l'inégalité de traitement que subissent les femmes n'a pas de fondement naturel, mais procède d'un préjugé culturel. En conséquence de sa démonstration, il préconisait qu'on donne aux femmes une véritable éducation, mais aussi qu'on leur ouvre toutes les carrières, y compris les carrières scientifiques. Il écrivit notamment « Les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes. Mais cela ne peut être établi qu'en refusant deux sortes d'adversaires, le vulgaire et presque tous les savants. » Fin de citation. C'est également à François Poulain de la Barre, j'adore ce nom, que l'on doit la célèbre formule « L'esprit n'a pas de sexe », sans que cela garantisse que la réciproque de cette assertion soit vraie. Le sexe n'a pas toujours de l'esprit. Oui, mais si l'esprit n'a pas de sexe, le prix Nobel, lui, semble en avoir un bien marqué, un sexe manifeste, celui d'un mâle dominant et même hyper-dominant. Depuis sa création, en 1901, il a été décerné à 46 femmes et 821 hommes, toutes catégories confondues, ce qui représente une proportion d'un peu plus de 5% pour les femmes. Pire, ce fossé s'accentue dans les disciplines scientifiques, puisque sur 594 récipiendaires, seulement 17 femmes ont été récompensées, dont une deux fois, c'est Marie Curie. Il y en a eu 12 en médecine, 4 en chimie et 2 seulement en physique. La question est donc, où sont les femmes ? Comment expliquer l'énorme disparité que je viens de chiffrer et comment la corriger ? Pour en discuter, j'ai invité Hélène Merle-Béral. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, professeur d'hématologie à l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, et vous venez de publier un livre intitulé « 17 femmes, prix Nobel de science ». Alors 17 femmes, en effet, c'est pas beaucoup. En 114 ans, 590 pratiquement récipiendaires dans les sciences, ce qui pour les femmes fait une proportion de 2,9%. C'est quand même très faible, et ça n'a pas l'air d'augmenter très vite.
Alors, c'est effectivement très faible, comme vous l'avez souligné, et c'est tout le propos de mon livre, c'est d'essayer d'expliquer comment on en arrive à des chiffres aussi catastrophiques pour la vie des femmes et leur vie scientifique, et surtout la différence de traitement des femmes à l'université qui s'est améliorée considérablement depuis les années 70 avec l'apparition de la parité, en réalité n'est pas suivie d'une augmentation de la place des femmes dans les carrières de haut niveau en sciences et encore plus au niveau des prix Nobel.
Est-ce que c'est la même chose en littérature, par exemple? Est-ce
qu'il y a un peu moins.
Un peu moins.
C'est-à-dire que sur les 17 femmes en littérature, je crois que c'est un peu moins. Par définition, on attribue les qualités artistiques et en particulier littéraires, on peut les attribuer aux femmes au moins à part égale que pour les hommes. Mais la différence reste quand même importante entre les hommes et les femmes pour l'attribution des récompenses de très haut niveau comme le prix Nobel ou même pour les postes à haute responsabilité. Il y a quand même une différence entre toutes celles qui ont eu le prix Nobel jusqu'aux années 2000. Il y en a eu 10 en un siècle. Depuis 1901, il y en a eu 10. Et depuis les années 2000, il y en a eu 7. Donc on peut voir quand même qu'il y a une petite accélération. Mais il y en a dans les matières scientifiques, il y en a une en 2015, au moment où j'ai terminé mon livre. Et cette année, en 2016, il ne vous a pas échappé qu'il n'y a eu aucune femme qui a reçu un prix Nobel, que ce soit aucune catégorie. Ni en physique, ni en chimie, ni en médecine, mais ni pour la paix, ni pour la littérature.
Alors, au début de votre livre, vous évoquez la figure d'Hypatie, philosophe à Alexandrie, qui s'est intéressée aux mathématiques, à l'astronomie, à la magie aussi, et dont on dit qu'elle a été assassinée en 415 dans des conditions qui sont tout sauf claires. Certains disent qu'elle a été lapidée, d'autres qu'elle a été démembrée, brûlée, sans doute à cause de la jalousie d'un évêque, je crois.
D'un évêque, l'évêque Cyril d'Alexandrie, qui était jaloux, parce qu'une femme qui était compétente, non seulement en matière de poésie et d'artiste, de toutes les matières artistiques de l'époque, mais surtout, elle était forte en mathématiques, elle avait des compétences en cosmologie, et il était extrêmement jaloux, donc il a ordonné qu'elle soit déchiquetée ou
alors, il y a d'autres versions,
lapidée.
Mais
je sais qu'il y a plusieurs versions.
Quel est le message qu'elle nous envoie d'après vous? Quel symbole vous voyez dans
Je pense que c'est dangereux pour une femme de faire de la science, puisque c'est un domaine qui serait réservé aux hommes. Voilà, je crois que c'est le message qu'elle nous donne, mais elle nous donne le message qu'elle continue à vivre sa passion et à transmettre ses compétences. Elle était enseignante en même temps, elle avait fait une école. Je crois qu'elle avait beaucoup d'élèves qui la vénéraient. Et elle a montré, quand même, elle a donné un exemple pour les femmes, que les femmes sont capables, aussi bien que les hommes, d'atteindre des sommets dans les matières scientifiques.
Mais pourtant, pour revenir au prix Nobel, dès sa création en 1901, enfin, quasiment dès sa création, il a été attribué à une femme, Marie Curie, on y reviendra.
Oui, on peut...
Donc, dès l'origine, il était prévu qu'il puisse être donné à des femmes.
Il n'avait rien, Alfred Nobel, dans son testament, n'avait rien préparé sur le sexe, il n'avait rien prévu, il avait tout organisé, le nombre de lauréats possibles par catégorie, etc. Il n'avait rien dit sur le sexe. Il n'avait pas dit autant les hommes que les femmes, ni simplement c'est pour les hommes. Donc rien n'était précisé. Il était normal, ça devait être attribué, le prix à un bienfaiteur. La définition, c'était un bienfaiteur de l'humanité. Donc, quelques catégories qui étaient la paix, la littérature, la physique, la chimie et la médecine.
Alors, quand vous parlez des prix Nobel de science, vous parlez du prix Nobel de physique, du prix Nobel de chimie, du prix Nobel de médecine et de physiologie, c'est le même?
Ça s'appelle physiologie et médecine, parce qu'à l'époque, tout ce qui était biologie, c'était représenté par la physiologie, parce qu'en médecine, on n'a pas le prix Nobel parce qu'on soigne bien. On a le prix Nobel parce qu'on a fait de la recherche sur des molécules qui ont des retombées après pour le traitement ou la compréhension des maladies.
Alors on voit qu'il y a quand même là encore un très grand déséquilibre. Les femmes sont récompensées plutôt en médecine et physiologie, et très peu en physique, et très peu en chimie. 4 prix Nobel en chimie, et 2 seulement en physique. Donc ouais. Ça veut dire que là encore, ce sont plutôt les sciences de la vie, si on peut dire, qui...
Voilà, parce que la physique et la chimie, comme les mathématiques, mais les mathématiques, on pourra raconter pourquoi, elles ne font pas partie des récompenses du Nobel.
C'est à cause d'une femme.
Ça, c'est la légende. En fait, c'est une histoire de femme, oui, bien sûr. Je sens l'ironie percée sous le propos. Mais c'est parce que je peux le dire. Alors, Nobel avait une jeune amie, une maîtresse qui s'appelait Sophie S. Il était furieux parce que cette amie était partie avec un même mathématicien de renom à l'époque qui s'appelait Mittag Lafleur. Et donc, il ne voulait surtout pas que le prix Nobel soit attribué à ce mathématicien cette idée lui était intolérable. Il paraît que c'est une légende, encore une histoire d'hommes qui ont inventé ça. Ce sont des hommes qui ont inventé cette histoire.
C'est les
en
hommes
réalité,
qui inventent cette histoire de femme,
oui,
ça que vous voulez dire.
Oui, je crois. Que c'est une femme qui est à l'origine de cette injustice, quelque part. Et en réalité, c'est parce qu'il c'était un ingénieur, c'était un physicien ingénieur, et qui considérait que les mathématiques étaient une matière ésotérique, et pas très... aucune raison d'être qualifié de bienfaiteur de l'humanité, quelqu'un qui pratiquait cette science.
Parce qu'elle n'avait pas d'application directe.
Peut-être.
Alors, vous parlez de Freud à deux endroits dans votre livre.
Très modérément.
Il y a notamment une citation qui m'a intéressé. Vous dites, c'est Freud qui parle, vous le citez, « Le bonheur est la réalisation retardée d'un désir préhistorique. C'est la raison pour laquelle la richesse y contribue si peu. L'argent n'a pas fait l'objet d'un désir infantile. » Fin de citation. Et par cette citation, on veut justifier le fait que les femmes dont vous parlez, qui vont obtenir le prix Nobel, ont souvent vécu dans des conditions matérielles très difficiles, et que c'est pas très rare parce que l'argent n'a pas été rêvé dans l'enfance, et donc c'est pas un besoin qui est nécessaire pour l'accomplissement de soi.
Exactement, ça m'a beaucoup frappé parce qu'elles ont fait preuve. Marie Curie, la première, c'était étonnant, elle était pauvre au début, donc il était normal qu'elle vive dans la très grande pauvreté, mais elle a vécu ses moments les plus heureux alors qu'elle était dans cet état de pauvreté extrême. Mais effectivement, je crois qu'on n'a pas le souvenir dans l'enfance d'avoir rêvé d'avoir beaucoup d'argent. On rêve d'être vétérinaire ou détective ou pompier, mais pas d'entasser de l'argent.
Mais est-ce que cette citation de Freud pourrait pas s'appliquer à autre chose, c'est-à-dire la curiosité? Est-ce qu'on pourrait penser que dans l'éducation des filles, l'envie de comprendre soit moins suscitée par l'entourage que chez les garçons, et que du coup, cette phrase pourrait expliquer pourquoi la science est moins présente dans l'esprit des jeunes filles que des jeunes garçons.
Je ne crois pas que l'envie de comprendre soit plus sollicité, soit plus une vertu masculine,
soit plus suscité
par l'environnement, parce qu'à 3 ans, 4 ans, on donne des schémas sociaux aux filles. On leur donne des poupées, on donne des camions et des voitures aux petits garçons et des poupées aux filles. Mais elles peuvent tout aussi bien avoir envie de comprendre. Je crois qu'elles posent des questions autant. Et je ne crois pas qu'elles soient freinées dans cette idée de la question. C'est plutôt sur quoi elles vont poser des questions, peut-être, qu'elles sont orientées. Et là, je rejoins effectivement ce que vous avez dit, effectivement. Mais par exemple, si je prends Ada Yonat, celle qui a vécu, alors elle, dans une vraie misère, l'israélienne, la seule israélienne qui a eu le prix Nobel, une très récente, elle était dans vraiment la misère, on peut le dire. Elle avait 5 ans, c'est bien précisé dans sa biographie, à l'âge de 5 ans, elle voulait comprendre le monde et elle voulait le mesurer. Et donc, elle organisait des pyramides avec les chaises et les quelques meubles qu'elle avait à sa disposition pour mesurer la hauteur de sa maison, la place de la fenêtre, etc. Donc, voilà, ça n'a la valeur que d'un exemple extrêmement ponctuel. Mais je ne crois pas que l'idée d'essayer de comprendre soit induite, je me trompe peut-être, mais soit induite par le milieu.
Là, j'ai commencé en donnant des statistiques, Hélène Merle-Béral, qui concernent la répartition des prix Nobel entre les disciplines et les femmes et les hommes. On peut continuer à donner d'autres chiffres sur le mariage. Par exemple, ces femmes prix Nobel se sont mariées, est-ce qu'elles ont eu beaucoup d'enfants, plus que la moyenne, moins que la moyenne? Là, ma question, c'est est-ce que la vie de chercheur, surtout dans des conditions très difficiles, comme ça a été le cas pour beaucoup d'entre elles, est compatible avec une vie de famille?
Alors, il peut y avoir le choix social ou le choix pratique et le choix volontaire. Donc là, si on regarde les prix Nobel, effectivement, 5 sur les 17, 5 n'ont pas eu d'enfants, 5 en ont eu un, et une en a eu 3 et les autres en ont eu 2. Donc on peut dire que c'est quand même nettement inférieur à la moyenne. Alors il y en a qui l'expliquent et qui en parlent. Il y en a qui disent je trouvais incompatible le travail de chercheuse avec l'éducation d'un enfant, les deux est en fait à des niveaux aussi perfectionnés qu'elle le désirait. Donc souvent c'est un choix, il ne semble pas que c'était particulièrement douloureux. C'est le cas de Françoise Barrésine aussi, c'est le cas de Rita Levi-Montalcini, toutes les deux l'ont explicité et décrit dans leurs écrits.
Mais il y en a même qui arrivent en retard à leur mariage parce qu'une expérience les retient.
Voilà, Françoise Barrésine aussi, justement, encore elle était prise par une expérience en cours qu'elle a fait le matin de son mariage, elle ne voulait pas perdre la journée, donc c'est terrible. Et donc, elle est arrivée en retard. Elle n'est pas arrivée, elle n'arrivait pas du tout. Si son mari ne l'avait pas téléphoné en lui disant « Écoute, je suis là, tous les invités sont là, on n'attend plus qu'une seule personne, c'est toi, pour commencer. »
Et voilà. Pierre et Marie Curie, je crois, ont quitté la cérémonie pour aller travailler ensemble en laissant les invités en plan.
Alors ça, je crois que c'est Irène Joliot-Curie.
Ah, c'est...
Je crois que c'est la fille de Marie Curie. Pierre et Marie Curie, ils ont bâclé ça en 5 minutes. Ils n'ont pas voulu de cadeaux. Ils n'ont même pas acheté d'alliance. Et ils se sont fait offrir par tous les invités et la famille 2 vélos. Et ils sont partis en vélo assez rapidement. Ils ont dû revenir aussi à leur... Mais surtout...
Ils partaient faire des randonnées, mais l'envie de travailler les tenait.
Et pourtant, ils étaient tous extrêmement... La plupart étaient sportifs. C'est une des caractéristiques communes. C'est toutes ces femmes étaient sportives. Et Pierre et Marie Curie aimaient beaucoup ça, mais ils aimaient encore plus le travail. Et donc, quand ils partaient en excursion pour vénérer les vertus du plein air et de la montagne, mais ils rentraient très vite pour venir à leur cher laboratoire.
Hélène Merle-Béral, le moment est venu d'écouter le premier morceau de musique que vous avez choisi. C'est une sonate de Schubert que nous allons écouter. Thank you. Hélène Merlberger, choix magnifique, cette sonate de Schubert, vous pouvez nous expliquer ce qui vous a donné l'idée de nous l'indiquer ?
Je redoutais bien cette question.
C'est très difficile. Donc vous avez préparé la réponse ?
Non, pas du tout, justement, parce que j'avais fait plusieurs propositions. En réalité, je pensais au départ, parce que je l'aime particulièrement, vous proposer un morceau de Chopin par Evgeny Kissin, qui est un pianiste assez exceptionnel, et parce que j'écoute beaucoup Chopin et que j'apprécie. En plus, ça fait une... c'est un peu un hommage aussi à sa compatriote Marie Curie, donc j'aimais beaucoup ça. Et puis, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'écouter cette sonate de Schubert et je l'ai trouvée... C'est une musique du soir peut-être, mais je l'ai trouvée assez bouleversante. Et je me suis dit, c'est trop difficile de choisir un morceau de musique, on se livre, on dit trop de choses sur soi, tant pis, je vais prendre cette sonate qui est une pulsion, parce que c'est pas quelque chose que j'écoute habituellement, c'est vraiment une pulsion, et puis voilà, je vais la faire partager, parce que ça a été une émotion pour moi de l'écouter.
Émotion partagée, merci beaucoup. Alors vous avez parlé de Marie Curie, elle a eu deux prix Nobel, un prix Nobel de physique en 1903, un prix Nobel de chimie en 1911. Alors le premier, elle l'a eu grâce à son mari, non pas tellement que son mari l'ait aidé à faire son travail, mais c'est son mari qui est intervenu parce qu'il savait que lui, Pierre Curie, aurait le prix Nobel, qu'il a dit « mais je ne fais rien sans ma femme, et donc si vous me le donnez, vous devez lui donner aussi ». Donc il a dû intervenir pour que le prix soit partagé.
Oui, et c'est tout à l'heure quand vous disiez il y a eu une femme tout de suite, mais elle a failli ne pas avoir le prix Nobel, Marie Curie. Effectivement, c'est parce qu'on l'a attribué à son... Le comité l'avait attribué à son mari d'abord, et puis à Becquerel, un autre qui a travaillé avec eux sur la radioactivité. Et puis, comme un des membres du comité Nobel qui se connaissaient tous à l'époque, les scientifiques, ils étaient une poignée essentiellement européens, il avait trouvé ça injuste pour Marie, qui c'était son sujet de thèse au départ. C'est elle qui était l'initiatrice de ce travail. Et donc... Quand ce membre du jury l'a dit à Pierre Curie, qui a pris sa plus belle plume, qui a écrit au membre du Nobel en expliquant que sa femme justifiée devait absolument partager cette découverte avec lui, puisqu'elle était l'initiatrice du travail et qu'elle avait largement...
Et elle l'avait rencontré alors qu'il avait 35 ans. Il vivait avec ses parents, chez ses parents, à Sceaux.
Oui.
Bon, elle l'a épousé, vous l'avez dit, et ils ont le prix Nobel ensemble en 1903. Oui. Leur vie est quand même changée. Très brutalement, ils deviennent célèbres.
Oui.
Marie Curie s'en plaint, elle écrit en 1904 « Notre vie est tout à fait abîmée par les honneurs et par la gloire ».
Oui, parce que pour elle, comme la plupart des prix Nobel, d'ailleurs, une des grandes jouissances de l'activité scientifique, c'est d'être dans la concentration et le silence, pour pouvoir avoir les bonnes idées et travailler, manipuler, faire toutes leurs expériences dans le calme et la sérénité. Et alors à ce moment-là, elles sont devenues célèbres, parce qu'il faut voir que Marie Curie, une femme qui a le prix Nobel, ça a été un événement mondain. Il faut voir que on n'est pas du tout, on est il y a plus de 100 ans. Et donc une femme physicienne prix Nobel, c'était mieux que Madonna. C'est-à-dire quand elle a fait un cours à la faculté, quand son mari est mort et qu'elle a pris le cours à la phrase où il en était resté, il y avait des journalistes, il n'y avait pas la télévision, il y avait peut-être la radio, il y avait des journalistes, toute la colonie polonaise de Paris était là. Enfin, c'est une star. Donc, chaque fois qu'ils se déplaçaient à une manifestation, qu'on leur demandait de donner des conférences ou d'animer des soirées, c'était pour elle du temps perdu. Elle en a été très malheureuse.
Alors, son mari meurt. Il est écrasé par une voiture tirée par des chevaux. Elle le remplace comme professeur à la Sorbonne. Obtient un second prix Nobel en 1911, dont l'annonce va la sauver d'une sorte de lynchage médiatique.
Absolument, le scandale Langevin.
Alors, elle rencontre Einstein en 1909, elle le revoit à Bruxelles au Congrès Solvay, à l'hôtel Métropole à Bruxelles, il continue de sympathiser. Et puis quand elle rentre, il y a le scandale qui éclate, elle a une liaison avec Paul Langevin qui est marié, séparé de sa femme, elle est veuve, et là c'est le lynchage...
Voilà, c'est-à-dire que Langevin est un physicien brillant et de renom et qui a été un grand ami de Pierre Curie et qui a continué à être très ami avec Marie Curie, avec qui elle travaillait. Et il se trouve qu'ils sont tombés amoureux 5 ans après la, c'était 5 ans après la mort de Pierre Curie, qui a été vécu par Marie Curie, comme on le sait, comme un drame, un terrible drame. Mais 5 ans après, elle est devenue, elle a ressenti une grande passion réciproque avec Langevin, et ça a fait, ils étaient tous les deux au congrès Solvay, et quand ils sont rentrés, à ce moment-là, Madame Langevin avait trouvé dans les poches de son mari une lettre de Marie lui demandant de divorcer pour vivre avec elle, et donc elle avait fait publier cette lettre, l'avait donnée à la presse, et donc ça a été un scandale qu'on imagine difficilement aujourd'hui.
La presse l'accuse d'être l'étrangère, la polonaise, la veuve adultère.
Absolument. On est venu lancer le jour même, le jour de la publication de cette lettre, on est venu lancer des cailloux sur sa maison. Elle a été obligée de fuir avec ses filles qui étaient affolées, chez un autre collègue physicien qui avait été... On lui avait demandé, l'université, le doyen de l'université lui avait demandé de ne pas accueillir Marie Curie, parce que c'était vraiment une femme scandaleuse, et il l'a fait quand même. Et le scandale n'est retombé que quand, effectivement, comme vous l'avez dit, quand on a publié qu'elle avait obtenu le prix Nobel, de ne pas aller recevoir ce prix
pour éviter des désordres à la République.
Mais ils sont quand même assez conventionnels au comité Nobel, et quand ils ont réalisé, appris, avec quelques délais de retard, quelques jours de retard, le scandale dans lequel était plongée Marie Curie, ils lui ont dit, mais vous savez, si vous voulez ne pas venir jusqu'à Stockholm pour recevoir le prix, c'est pas grave, vous viendrez plus tard, etc. Et elle a tenu à venir, bien sûr, et a démontré que c'était bien elle qui avait fait ce travail. Et que...
Einstein habitait à Prague à cette époque-là, et quand il est rentré à Prague, il a appris le scandale qui touchait Marie Curie. Il lui a écrit une lettre, et j'en lis un extrait qui va d'ailleurs, c'est une idée qu'il développe, il va beaucoup lui servir plus tard quand il sera lui-même attaqué par la presse, notamment par la presse nazie. Si cette racaille s'occupe encore de vous, cessez simplement de lire ces sottises, laissez-les aux vipères pour qui elles ont été fabriquées.
Très bien.
Simplement, un lynchage médiatique aujourd'hui, ça prend des formes complètement différentes. Il y a la télévision,
Ça va encore plus vite.
Mais à l'époque, ça prenait quelle forme? Comment est-ce qu'on peut sentir, alors qu'il n'y a que les journaux pour propager cette...
Il y a les journaux, mais tous les journaux sont lus par les gens dont dépend et avec qui on travaille. Donc, si vous arrivez dans votre laboratoire et si tous les membres des laboratoires ou de l'institut dans lequel vous travaillez vous insultent au passage, refusent de vous donner des crédits, refusent de retirer les étudiants de chez vous et lancent des pierres sur votre maison, il est difficile, même s'il n'y a pas la télé, de ne pas être blessé, horriblement blessé par le traitement qui vous est infligé.
Alors aujourd'hui, Marie Curie dort aux côtés de Pierre Curie au Panthéon. Pas très loin de Paul Langevin.
Exactement.
Donc l'amant et le mari sont là. À quelques dizaines de mètres l'un de l'autre.
Finalement.
Donc ça finit par s'arranger finalement.
C'est-à-dire qu'ils ne se sont... Leur histoire d'amour a bien sûr été complètement interrompue et définitivement interrompue par le scandale. En revanche, ils ont continué à travailler ensemble et Marie a gardé une confiance absolue dans le jugement de Langevin. Et par exemple, quand sa fille... Irène et Joliot Curie ont découvert la radioactivité artificielle. Ils ont fait la première expérience, ils étaient fous de joie. Ils ont appelé Marie pour refaire l'expérience devant elle, pour qu'elle profite de ça et qu'elle leur reconnaisse qu'il n'y a pas d'erreur et que c'est vrai, ils ont fait une découverte fantastique. Et Marie Curie est arrivée, mais elle a amené Paul Langevin en même temps.
Et Paul Langevin était le directeur de thèse d'Irène Joliot Curie.
Ah, je ne savais pas.
Donc ils ont gardé des relations scientifiques assez fortes.
Oui, oui.
Alors justement, parlons un peu d'Irène et de Pierre Joliot Curie, parce que c'est un autre couple qui a le prix Nobel. Mmh. C'est quand même une histoire de couple sur les...
Il y a quatre femmes qui ont eu le prix Nobel
en même temps que leur mari. Parce qu'ils travaillaient en même temps,
sinon ils n'avaient pas la possibilité de travailler. On ne parle pas beaucoup de misogynie, là, depuis qu'on a commencé. Et je ne suis pas spécialement... féministe, mais quand même, on imagine mal aujourd'hui à quel point la misogynie était violente à cette époque-là. Les femmes n'avaient pas le même enseignement que les hommes, en particulier dans la plupart des écoles, elles n'avaient pas de formation en chimie, physique, mathématiques d'ailleurs. Et donc elles étaient obligées, pour celles qui voulaient faire une carrière scientifique ou médicale, elles étaient obligées de faire des cours et de se former elles-mêmes, de suivre des cours et une formation qui quelquefois était particulièrement difficile. Par exemple, Gertie Corrie, celle qui a découvert le cycle des glucoses, elle a dû faire en 2 ans, rattraper 6 ans de maths, physique, chimie, latin, grec, parce que dans certaines universités, il fallait aussi avoir des bases solides en latin et en grec pour avoir le droit d'être inscrite à l'université. Et sans parler de Marie Curie et de sa sœur, parce qu'en Pologne, les filles n'avaient pas accès à l'université.
C'est pour ça que Marie Curie est venue en
France.
Donc
c'est pour ça qu'elle est venue en France, et d'abord qu'elle a gagné de l'argent en tant que gouvernante pour donner de l'argent à sa sœur aînée qui voulait faire d'études de médecine, c'était sa passion depuis toujours, et qui ne pouvait les faire qu'en France, elle voulait les faire en France, et parce qu'en Pologne, c'était pas possible.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors, Irène et Frédéric Joliot-Curie ont découvert la radioactivité artificielle. Ils ont eu le prix Nobel de chimie, je crois, pour cette découverte en 1936. Mais avant, en 1932, ils ont découvert le neutron sans s'en rendre compte. Ils sont trompés sur l'interprétation de l'expérience. Les Italiens, Fermi et Majorana, qui ont compris qu'ils avaient fait cette découverte, qui a été confirmée ensuite par Chadwick, qui lui a eu le prix Nobel.
Qui a eu le prix Nobel pour ça,
Mais est-ce qu'on est capable, quand c'est un couple qui travaille, de faire la part des choses et de dire qui a fait quoi dans l'affaire?
Non. Ils disent que non.
Eux-mêmes disent que non.
Tous ceux qui ont travaillé en couple, ils ont parlé de ça. C'est-à-dire les Curie et fille et mère, et ils disent chacun qu'ils sont complètement complémentaires, et même plus récemment d'ailleurs le couple Moser qui a travaillé sur le GPS neuronal, là,
sur les gènes qui nous permettent de nous situer dans l'espace.
Donc ils disent tous qu'ils sont complètement interchangeables, que souvent l'un finit de phrase commencée par l'autre, simplement ils ont des caractéristiques, l'un est plus, s'occupera plus par exemple de publications et de la présentation orale et des conférences, et l'autre s'occupera plus de l'organisation du laboratoire. Mais dans les idées scientifiques, c'est un échange permanent et bilatéral, enfin très équilibré apparemment.
Mais il y a parfois une brisure de la symétrie quand même. Par exemple, vous venez de parler du couple Curie, C-O-R-I, qui ont eu le prix Nobel en 1947 pour la découverte du cycle du glycogène. Mm-hmm. Mais sur la Lune, il y a un cratère de Curie. Mais vous dites pour qu'il elle. A été donné pour elle. Donc le mari est oublié dans l'affaire.
Ça, ce genre de remarque est étonnante. Non, c'est simplement en son honneur, parce que je ne sais pas si on donne des noms de cratères ou d'étoiles à d'autres choses qu'à des femmes.
Je ne sais pas vous répondre.
C'est-à-dire des hommes.
Vous pensez qu'il y a une interdiction?
Non, une habitude, une coutume. Ça, c'est en honneur de... Il y a eu deux Nobel, je crois, qui ont eu... Il y en a une autre, je ne sais plus laquelle, sincèrement, j'ai oublié. Et qui a eu aussi un cratère qui porte son nom, deux femmes. Et ça n'a jamais été... Enfin, je ne sais pas, peut-être pour les hommes, franchement...
En tout cas, les portraits que vous faites de ces 17 femmes montrent des vies assez difficiles. En tout cas, au début, souvent, l'enfance est difficile, l'entrée dans la science est difficile. La vie scientifique est difficile, il y a parfois des récompenses qui sont très tardives. Mais il y a quand même des exceptions, et vous citez le cas de Maria Goeppert-Mayer, qui a été prix Nobel de physique en 63.
C'est la seule après Marie Curie.
Donc 60 ans après Marie Curie, et depuis, il n'y a pas eu de prix Nobel de physique attribué à des femmes. Ça, c'est quand même incroyable, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes physiciennes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faudra essayer d'expliquer ça tout à l'heure, mais pour elle, c'est plutôt la belle vie, c'est elle qui a découvert ce qu'on appelle... les nombres magiques en physique nucléaire. Et elle a une vie assez magique. Mariage heureux, enfant, très belle, très courtisée. Sa fille dit que tous les hommes tombent amoureux d'elle. Et elle démarre sa carrière en Allemagne en 1924, à une époque où seulement un étudiant sur 10 est une étudiante.
Voilà.
Est-ce que ça, c'est une proportion qu'on retrouve partout en Europe à l'époque?
Pas du tout. Les étudiants, il y a au moins autant d'hommes que de femmes. Simplement, c'est
même en sciences.
C'est au niveau du choix de la carrière après. Non, je crois qu'en physique, il doit peut-être y en avoir moins, mais à la fac, il y en a beaucoup. C'est au moment du choix de la carrière. Là, elles interrompent leurs études ou elles s'arrêtent et elles vont pas faire une carrière de physicienne souvent après. Maria Goeppert-Mayer, en fait, c'était une mathématicienne au départ. Elle adorait. Elle est extraordinaire parce qu'elle est vraiment bénie des dieux. Elle a tout pour elle. Vous avez parlé de tous ses talents et de toutes ses chances, mais en plus elle avait des parents extraordinairement brillants. Elle était la fille unique, elle était adorée par ses parents, en particulier son père qui l'a initiée et qui l'a initiée très tôt aux choses scientifiques et qui l'encourageait à n'être pas seulement une femme réussie, mais aussi de faire autre chose de sa vie que d'être une femme épanouie selon les critères de l'époque. Et elle était à Göttingen, c'était le temple
Des mathématiques.
Des mathématiques et de la physique aussi. Au départ, elle voulait faire des mathématiques. Et puis, elle a réalisé qu'en fait, les mathématiques, c'était un puzzle, des puzzles, mais construits à résoudre, mais qui étaient construits par les hommes, en fait. Et que la physique, c'est un vrai défi, parce que ce sont les mystères de la
nature. Quand vous dites les hommes, vous voulez dire les humains.
Les hommes, les êtres humains. Oui, bien sûr. Non.
Alors que la physique,
c'est la nature qui pose des problèmes et des puzzles à résoudre, des énigmes à décortiquer. Voilà. Et donc, elle a dit, finalement, le vrai défi, c'est la physique. C'est comme ça qu'elle est devenue physicienne. Et elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle a épousé en plus le grand séducteur de Göttingen à l'époque et le plus riche. Elle a été aux États-Unis, elle était fêtée par tout le monde et elle était reconnue comme excellente physicienne. Et ce qu'elle voulait, elle voulait pas être reconnue comme une femme qui fait de la physique, même si c'était exceptionnel. Elle voulait être reconnue comme une excellente physicienne.
Avant la Seconde Guerre mondiale, quand on regarde les bancs des facultés de physique, on voit qu'il y a quasiment pas de femmes. Il y a une exception localisée en 1938 à Naples. Il y a Ettore Majorana dont on a parlé, qui donne des cours à l'Institut de physique. Il a 6 étudiants, 5 étudiantes, et l'étudiant est là parce qu'il est amoureux d'une des étudiantes. Et donc, l'année d'avant, il n'y a que des hommes, l'année d'après, il n'y a que des hommes, et là, il y a une sorte de miracle ou de singularité. En Italie, à Naples, en 1938, les personnes qui étudient la physique théorique sont des femmes.
Ouais, je ne sais pas si vous avez une explication. Moi, je n'ai que ça arrive ailleurs, en particulier pour la guerre, pendant la guerre. Mais c'est un tout petit peu plus tard. Mais souvent, ils sont en préparation de la guerre et alors on envoie les hommes.
Oui, c'est un remplacement, en fait.
Voilà. Oui. Mais comment vous l'expliquez, vous,
cette... Je me suis renseigné, j'ai enquêté un petit peu et il n'y a pas d'explication. Il y a une sorte d'anomalie qui est sans cause apparente. Alors les nombres magiques quand même, il faut...
Parce que c'est très difficile.
Sur les prix Nobel de médecine et de physiologie, je ne suis pas compétent, mais sur les nombres magiques, il y en a quelques-uns. C'est 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, qui correspondent à des nombres de protons et de neutrons dans les noyaux qui les rendent particulièrement stables. Ils devraient être radioactifs, mais en fait ils ne le sont pas, parce que ces nombres sont précisément magiques. Et ce qu'a fait Maria Göpper-Meyer, c'est d'expliquer ça par ce qu'on appelle le modèle en couches. Par exemple, dans le plomb 208, il y a 208 protons et neutrons au total dans les noyaux, 82 protons, 126 neutrons, ça fait deux nombres magiques, donc il est très stable. Pareil, le calcium 48, 20 protons, 28 neutrons, il y a un grand écart entre les deux nombres, mais c'est le fait qu'il soit magique rend l'édifice très stable. Alors, est-ce que vous pensez que ça fait que deux prix Nobel de physique, ça, j'ai quand même été très surpris en lisant votre livre, deux prix Nobel de physique en plus d'un siècle maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose avec la physique qui explique ça, qui serait le fait que les femmes s'intéressent moins à la physique qu'à la chimie, par exemple, ou à la médecine, ou est-ce qu'il y a des raisons culturelles, d'organisation de la recherche, de réputation ou...
Je pense que c'est à la fois plutôt culturel et d'organisation. Je pense qu'il me semble, je suis même sûre, qu'il y a une pression sociale qui fait que la physique est réputée comme une science non féminine, parce que une science dure, une science qui n'a pas de
rapport avec la vie.
Loin de la vie, oui, c'est loin de la médecine, alors que la chimie, c'est proche de la médecine, en fait, de la biologie, des choses qui introduisent l'humain. La physique, c'est quand même quelque chose de dur de comprendre la physique. Je veux dire, l'infiniment grand ou l'infiniment petit, il faut faire un effort, on peut passer au-dessus de nous. Enfin,
oui, mais quand on regarde les travaux de ces femmes dans la médecine, c'est des travaux très durs aussi, très
qui demandent beaucoup. Non, mais qui sont applicables, c'est le corps humain, c'est la biologie, c'est la vie, c'est le corps humain. Comment vous dire si le boson de Higgs ou le... Je sais pas, moi.
Mais il y a des femmes qui ont travaillé
là-dessus, mais c'est quand même beaucoup plus difficile à imaginer. Donc je pense que c'est pas une question de structure mentale des femmes, mais qu'on a habitué les femmes à être dans l'humain, dans l'art et dans l'humain, dans ce qui est humain, biologique, humain, la zoologie, la botanique. Il y en avait beaucoup qui étaient à la fac de botanique. Par exemple, il y avait beaucoup de femmes aux États-Unis. Elles faisaient toutes de la botanique ou de la zoologie ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y a une grande pression sociale qui fait que les femmes ont intériorisé cette notion que la physique n'est pas faite pour elles parce que c'est trop difficile et c'est pas compatible avec l'esprit féminin. Et je pense qu'elles s'autocensurent vraiment et que, enfin, elles le disent elles-mêmes d'ailleurs, qu'elles se disent qu'elles ne seront pas à la hauteur. Il y a eu une enquête récemment qui a été publiée par Le Point en 2015, on a européenne, hein, qui sur hommes et femmes, autant d'hommes que de femmes, dans 5 pays européens, on leur a demandé s'ils pensaient que les femmes étaient capables de hautes performances scientifiques, d'être des scientifiques de haut niveau. Et les deux tiers des gens, 67 exactement des gens, aussi bien les hommes que les femmes, à 1% près, pensent que non, que les femmes ne sont pas aussi compétentes que les hommes.
Vous voulez dire que sur cette question, les hommes et les femmes pensent la même chose ?
Elles pensent la même chose. C'est plus les Allemands qu'ils pensent, encore 2% de plus, ça fait 71% des Allemands qui en sont encore plus persuadés, les hommes autant que les femmes. C'est quand même très étonnant. Alors qu'en fait, ça repose sur rien. Enfin, ça repose sur rien. Rien de démontré. Les choses doivent être démontrées. C'est pas un physicien que
Non, mais c'est un préjugé qui est déjà dénoncé par.
Dénoncé par Poulain, François Poulain de la Barre.
En 1673. Oui. Donc,
mais il a été peu suivi. Hein.
Mais oui, mais l'idée aurait quand même pu mûrir au cours de ces siècles.
Non, l'idée n'est pas morte, apparemment. Et moins que jamais, semble-t-il. Alors, il y a actuellement aux États-Unis des psychologues de renom qui sont des militants pour la théorie du déterminisme biologique, selon laquelle les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes schémas cognitifs. Et en réalité, ils se basent sur des thèses qui n'ont pas été vérifiées, et en réalité, les neurophysiologistes aujourd'hui s'opposent totalement à ce genre d'affirmation, et grâce au progrès des neurosciences, en particulier à l'imagerie médicale, l'imagerie par résonance magnétique, ils ont découvert cette propriété extraordinaire du cerveau qui est la plasticité. En fait, on a des connexions, des milliards de connexions cérébrales dans le cerveau, les neurones communiquent entre eux, et dans ces connexions, il y en a 10% qui sont innées, qui sont présentes à la naissance, et 90% qui sont acquises au cours des événements de la vie par les interférences et l'extérieur. Et donc, si on compare une IRM, une radio du cerveau d'un homme ou d'une femme adulte, actuellement, s'il y a des différences, on ne peut en aucun cas préciser si elles sont innées ou acquises. Donc, la théorie du déterminisme biologique, selon laquelle la physiologie de la femme influencerait ses vertus intellectuelles, n'est pas vérifiée.
C'est le moment, Hélène Merle-Béral, d'écouter le second morceau de musique que vous avez choisi. Je crois que c'est un extrait de l'opéra de Gounod, Roméo et Juliette, Je veux vivre.
Oh,
Je veux vivre, Roméo, Juliette. Là, les raisons du choix sont plus claires.
Plus claires, je ne sais pas. C'est aussi parce que j'aime beaucoup Anna de Trepco. Je trouve qu'elle a une voix merveilleuse, c'est banal de le dire, mais elle va directement à l'émotion. Elle fait passer les émotions qu'elle veut dans ses interprétations. Et puis, alors là, je trouve que la puissance de ce morceau, qui ne vous a pas échappé, c'est vraiment très fort. Je trouve, elle, pour moi en tous les cas, elle rentre en résonance quelque part avec la persévérance, la volonté que j'ai découvert chez mes Nobel.
Alors justement, ces femmes qui ont le prix Nobel en sciences sont rares et donc elles devraient être traitées un peu comme des héroïnes. Et pourtant, on voit qu'il y en a beaucoup pour lesquelles le prix Nobel ne change guère leur vie. Elles-mêmes sont étonnées de le recevoir. Je pense à Barbara McClintock, qui a le prix Nobel en 1983, et qui dit « C'est injuste de récompenser une personne pour avoir eu tant de plaisir pendant des années à demander à un plant de maïs de résoudre des problèmes spécifiques et ensuite d'attendre sa réponse. » Elle a découvert les gènes sauteurs.
Je crois que c'est pour faire un bon mot et par humilité aussi, parce qu'elle était humble, elle a toujours pensé toute sa vie, quand elle était victime de discrimination, elle croyait au départ que c'était non pas parce que c'était une femme, mais c'était parce que elle avait un traitement personnel, parce qu'elle était un peu bizarre, parce qu'elle avait des tenues un peu scandaleuses, parce qu'elle vivait de façon un peu marginale. Mais je crois que dès le début, il paraît que son entourage disait chaque fois qu'elle faisait une découverte, parce que c'est une des rares d'ailleurs qui a fait ses découvertes toute seule, la plupart des autres ont fait avec leur mari ou avec un mentor ou avec un collègue scientifique très proche. Elle a tout fait toute seule, elle a monté ses théories toute seule et c'est vrai qu'elle a été heureuse de le faire. Mais je crois que c'est une figure de style et tout le monde, chaque fois qu'elle faisait une découverte, disait oh, ça mérite le prix Nobel. Je crois qu'elle l'attendait quelque part.
Et les gènes sauteurs, c'est quoi exactement?
Les gènes sauteurs, c'est-à-dire qu'avant on avait la notion du chromosome immobile, de l'immobilité des chromosomes, les gènes c'était définitif, ils étaient à leur place. Et elle a montré qu'il y avait des gènes qui pouvaient, la plasticité aussi du génome, c'est-à-dire que les gènes peuvent se déplacer dans un chromosome et même sauter d'un chromosome à l'autre pour aller stimuler ou inhiber la fonction d'autres gènes. C'est ce qui explique d'ailleurs ces gènes. C'est une découverte très importante parce qu'elle explique qu'à partir de deux cellules qui ont les mêmes chromosomes, les cellules filles peuvent se différencier et donner naissance à des cellules différentes et constituer ainsi les organes différents. Voilà. Donc c'est une découverte fondamentale et qui a été au début mal comprise parce qu'elle avait des théories extrêmement compliquées. Et en plus, pourquoi elle dit ça? C'est parce qu'elle a été vraiment heureuse de faire ses découvertes et ça, c'est une des constantes qu'on retrouve chez toutes les femmes prix Nobel. Elles disent qu'elles sont heureuses et qu'elles ont été heureuses. Toutes, elles ont la passion de la recherche. Elles ont le désir, elles ont une espèce de curiosité intellectuelle qui est permanente, qui est constante chez elles toutes, et cette curiosité intellectuelle est soutenue par une passion inaltérable jusqu'à la fin de leur vie pour la plupart, et c'est cette passion qui leur donne le bonheur, parce qu'elles ont réussi et que tous les matins, elles avaient l'enthousiasme jusqu'à
leur avancée. Il y a un cas d'ailleurs exemplaire, une sorte
Rita
de phénomène,
Rita
Levi Montalcini, qui est morte en 2012 à 103 ans, ouais. Et qui a continué de travailler jusqu'à la fin.
La
ça, c'est un phénomène.
Ah oui, mais elle est extraordinaire. Ici, en France, elle est peu connue, mais elle est une icône en Italie pour les femmes, parce qu'en plus, elle a beaucoup fait pour la condition féminine. Elle a passé 20 ans de sa vie aux États-Unis. En dehors de ça, elle est venue en Italie, où elle continue à faire sa recherche sur le cerveau, en même temps et qu'elle faisait de la politique. Elle a monté l'équivalent, elle a créé, pas toute seule, mais elle a créé l'équivalent du CNRS en Italie. Et puis, elle a fait des instituts pour aider les femmes africaines d'une part et les femmes scientifiques d'autre part en Italie.
Alors d'ailleurs elle explique sa longévité hein, par sa propre théorie. Elle dit le vieillissement neuronal consiste dans une élimination de cellules bien inférieure à ce que l'on croit généralement. Les cellules qui demeurent peuvent augmenter leur ramification dendritique et renforcer les circuits cérébraux. À un âge avancé, non moins que dans les précédents, le cerveau de l'Homo sapiens conserve des propriétés qui ne diffèrent pas de celles qu'il possédait auparavant.
C'est très rassurant. je trouve, de savoir que les neurones, il suffit de les stimuler, que jusqu'à la fin de la vie, sa vie, c'est sa grande théorie, jusqu'à la fin de sa vie, les neurones, d'abord, on en perd beaucoup moins qu'on ne le craint, et qu'ensuite, qu'on peut les stimuler, qu'ils marchent bien. Et je trouve qu'effectivement, son exemple illustre bien cette théorie.
Alors, on a parlé de Marie Curie, qui a eu deux fois le prix Nobel. Mmh. Mais il y a aussi des objets ou des sujets qui ont eu deux fois le prix Nobel. C'est le cas du télomérase.
La télomérase, elles n'ont pas eu deux fois le prix Nobel. Elles ont eu le prix Nobel ensemble.
Ah, d'accord.
Voilà. Elles étaient, l'une était l'élève de l'autre.
Ah, je me suis trompé en lisant votre livre. Alors, ce sont deux femmes qui ont eu le prix Nobel en même temps.
Elles ont eu le prix Nobel en 2009, si je me souviens bien, je crois.
Oui, c'est
et
ça, 2009.
Elles l'ont eu en même temps avec un troisième, d'ailleurs, Sauzac. Et qui travaillait aussi dans le laboratoire d'Elizabeth Blackburn, qui est celle qui a commencé à travailler sur les télomères.
Qu'est-ce que c'est que les télomérases?
Les télomères, c'est les extrémités des chromosomes. Et la bonne santé de nos chromosomes dépend complètement des télomères. Ils les protègent et il faut que le chromosome reste assez long pour qu'on... Vous savez que les chromosomes sont le support de l'hérédité qui contiennent l'ADN. Et donc, cet ADN est protégé par les extrémités et en vieillissant, voilà encore quelque chose qui se dégrade dans le vieillissement, les télomères se raccourcissent. Et lorsqu'une cellule n'a plus de télomères, elle meurt. Voilà. Donc, des télomères en bonne santé et longs sont des indices de jeunesse éternelle. La preuve, d'ailleurs, il y a maintenant sur le marché, on a mis des pommades qui contiennent des stimulateurs de télomérase qui permettent, c'est l'enzyme qui permet à ces télomères, la télomérase est l'enzyme qui permet à ces télomères de se reconstituer.
Et ça marche.
D'accord. Ça marche in vitro. Je n'ai pas essayé la pommade, la crème contenant des activateurs des télomérases, mais ce qui permet la jeunesse. Et j'ai vu d'ailleurs sur... Il y a une autre application de la télomérase, c'est que la télomérase stimule le télomère, et dans les cellules cancéreuses, qui se multiplient beaucoup, à l'inverse, beaucoup ont de cette fameuse télomérase, c'est-à-dire l'enzyme qui permet l'allongement des télomères, en excès. Et donc, il y a des traitements, alors là, en cours vraiment, et qui sont efficaces, semble-t-il, en hématologie, en cancérologie, en utilisant des antitélomérases, donc ce qui empêche les cellules qui ont un des excès de télomérases de proliférer.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors, vous faites, Hélène Berle-Béral, un très beau portrait de Françoise Barré-Sinoussi, française, qui a eu le prix Nobel en 2008 pour la découverte du virus du sida.
Oui.
Vous l'avez rencontrée?
Oui, je l'ai rencontrée. La gentillesse de me faire cet honneur, je l'ai rencontrée. Elle, ce qui la caractérise, c'est aussi la passion. Elle a eu beaucoup de chance d'être d'emblée dans le bon laboratoire avec le bon sujet. Mais enfin, la chance, elle se crée aussi.
Elle sourit,
mais... Mais elle a cherché, c'est-à-dire qu'elle voulait faire de la science, mais elle voulait la vie du laboratoire. C'est inscrit à la fac de sciences, et là, grande déception, il y avait quelques travaux pratiques, mais c'était de la théorie. Elle voulait de la pratique tout de suite. Elle s'est même dit, je vais faire une étude de technicienne de laboratoire pour être tout de suite dans un laboratoire. Elle a eu cette idée, c'est ça son originalité. Elle a eu l'idée de proposer ses mains, son travail, dans un laboratoire de recherche qu'il accepterait, où elle travaillerait bénévolement, et simplement elle rendrait service, en même temps elle apprendrait la recherche sur la paillasse, comme on dit. Et par une amie, elle a eu l'accès au laboratoire de Jean-Claude Sherman, qui est un chercheur de Pasteur, qui travaillait sur les rétrovirus, et qui l'a accepté, et elle a fait toute sa carrière dans son laboratoire, et c'est comme ça qu'elle est devenue prix Nobel pour la découverte du virus du sida, qui est un rétrovirus.
Est-ce que vous pensez qu'elle est aussi connue que les prix Nobel français masculins dans d'autres disciplines? Ouais. Est-ce que c'est elle-même qui est réservée, ou est-ce que c'est...
Je crois qu'on oublie les prix Nobel, même masculins. Sauf dans chaque pays. Les prix Nobel sont connus dans chaque pays. Ça, nous, on connaît bien les Français. Voilà, Jacob, on sait. Mais on connaît Françoise Barré-Sinoussi, Marie Curie et sa fille. Mais on connaît pas. Moi-même, quand j'ai commencé mon étude sur ces femmes prix Nobel, je les ai découvertes pour la plupart. Je connaissais Rita Levi-Montalcini, mais c'est tout.
Et ça a été facile pour vous de trouver des éléments biographiques pour chacune d'elles?
C'est très difficile parce qu'elles se livrent peu. Il y a ce sont des biographies très allégées, c'est quand elles ont été faites par des biographes. Et sinon, au moment de leur prix Nobel, de la réception du prix Nobel, la cérémonie à Stockholm, le 10 décembre, elles font elles-mêmes une biographie résumée. une autobiographie résumée. Donc c'est comme ça. Maintenant, il y en a quelques-unes qui ont écrit. Françoise Barrissine aussi, je l'ai rencontrée. Comme Elisabeth Blackburn des Télomères, je l'ai rencontrée aussi. Elle était venue faire une année sabbatique à l'Institut Curie. Et ce qui m'a frappée aussi, c'est sa modestie. C'est-à-dire qu'elle elle est toujours dans l'ombre. Elle ramène son travail qui l'a passionnée, mais elle le ramène à un travail d'équipe. Et à partir du moment où elle a eu le prix Nobel, elle n'a eu de cesse de s'occuper de former et le personnel soignant, et les patients, et les enseignants, a essayé d'éradiquer l'épidémie du sida. Elle a commencé par l'Afrique, elle a continué par l'Asie, en particulier le Cambodge, où elle a et c'est d'ailleurs à l'Institut Pasteur du Cambodge, au cours d'une réunion où elle faisait le point sur tous les travaux en cours, qu'elle a appris, par un coup de téléphone de France Inter, c'était la station de radio où travaillait son mari qui était décédé quelques mois avant, et qu'elle a appris qu'elle avait le prix Nobel. Et elle ramène toujours ça à un travail d'équipe. Et on n'a pas bien compris pourquoi il y a 3 récipiendaires chaque fois et pas plus, selon les recommandations d'Alfred Nobel. Et on n'a pas compris pourquoi Jean-Claude Sherman ne l'avait pas eu. Elle en était désolée parce que ça a été son maître et celui qui l'a guidé dans toute sa carrière.
Oui, il y a eu beaucoup d'oubli dans l'histoire du prix Nobel.
Il y a beaucoup d'oubli, oui.
Mais dans les 17 portraits que vous avez tracés là, sur les 16 femmes... Enfin, sur les 17 femmes, plutôt, il y en a 16 qui sont nées en Europe ou aux États-Unis. Et une seule hors de l'Europe et des États-Unis. C'est une Chinoise qui a eu le prix Nobel en 2015. Oui. Je sais pas comment on prononce son nom. Yu Yu Tu.
Yu Yu Tu. Alors même quelqu'un m'a fait la remarque qu'il fallait dire Tu Yu Yu parce qu'en Chine, on dit le nom de famille avant le prénom.
Bon, enfin, alors, moi, je dis Yu Yu. Elle a eu le prix Nobel pour un traitement qu'elle a mis au point du paludisme.
Oui.
Est-ce que vous pensez que c'est de ces pays-là, la Chine, l'Inde, l'Amérique du Sud, que vont venir les prochains prix Nobel féminins, parce que là, il y a un développement énorme et beaucoup d'activités.
Personne n'a bien compris comment Yu Yu Tu a eu le prix Nobel l'année dernière.
Ça a été...
C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle est chinoise, mais c'est ça. Elle a fait une découverte extraordinaire. Mais cette découverte, ils ont fait un choix qu'on a trouvé tous courageux, mais qui pouvait déstabiliser les scientifiques, parce que vous savez comme moi que la reconnaissance scientifique, elle est accordée par le niveau et le nombre des articles parus dans des revues internationales, essentiellement américaines, voire anglaises. Et elle n'a jamais rien publié. Elle a commencé son travail pendant la révolution chinoise, et c'est Mao Zedong qui lui a intimé l'ordre de découvrir un traitement pour le paludisme. Elle a dû abandonner mari et enfant pour se lancer à fond dans cette entreprise qu'elle a réussi, et elle a eu une vie complètement marginale, et elle était totalement inconnue, alors que les autres prix Nobel sont connus dans leur discipline, par tous les chercheurs et scientifiques du monde entier. Elle était totalement inconnue. Donc on a été très étonnés de cette prise de risque des membres du prix Nobel. Alors peut-être qu'ils ont cherché à se rattraper. Du coup, cette année, il n'y a aucun prix Nobel féminin pour montrer que ils n'étaient pas devenus des féministes purs et durs. La découverte est importante.
Il y a aussi des gens très connus dont on s'étonne qu'ils aient le prix Nobel. Je pense à Bob Dylan.
Lui-même, le premier, était très étonné. Ouais. Et d'ailleurs, il a pris la chose d'assez haut, si j'ai bien compris. Enfin, avec une certaine indifférence. Peut-être pas assez haut parce qu'il n'est pas méprisant, mais avec une certaine indifférence.
Alors, dans votre tentative d'interprétation de cette très faible proportion de femmes primées par le prix Nobel scientifique, vous évoquez deux effets, l'effet Mathilda et l'effet Mathieu. Qu'est-ce donc ?
Alors, l'effet Mathilda, c'est une théorie qui est partie d'une observation d'une scientifique américaine à la fin du 19e, pas physicienne, elle était scientifique, et qui avait remarqué le déni, ou tout au moins la minimisation du travail fait par les femmes au profit de leurs collègues masculins. Quand il y a dans une équipe un homme et des hommes et une femme ou plusieurs femmes, le travail des femmes est souvent relégué aux oubliettes ou minimisé en tout cas. Et alors, il y a l'effet Mathieu qui est assez comparable, et ça qu'on a tous l'occasion de vérifier et qui est très actuel aussi, c'est le fait que quand une une découverte, une publication est faite par un chercheur inconnu ou peu connu, et que la même est faite par une star dans la discipline, on aura tendance à l'attribuer, mais alors de façon systématique, et de publier le papier du chercheur très connu au dépens et au détriment du chercheur inconnu, alors que c'est la même qualité de recherche et les mêmes résultats.
Alors, s'agissant des femmes, les deux effets vont dans le même sens et se renforcent l'un l'autre.
C'est terrible. On ne les connaît même pas.
Donc, il faut supprimer l'effet Mathilda et il faut supprimer l'effet Mathieu.
Ça
et peut-être
bien.
Qu'en en supprimant un, on supprime l'autre.
Peut-être. Ça part de la même racine, en tout cas, du même forme de raisonnement.
Alors, imaginons qu'on fasse une expérience de pensée qui consisterait à réexaminer l'histoire du XXe siècle et à voir quelles ont été les femmes oubliées, c'est-à-dire des femmes qui auraient dû avoir le prix Nobel et à cause de tous ces biais, n'ont pas pu l'obtenir. Est-ce qu'on pourrait s'approcher de la parité? Parmi les grandes oubliées, il y a Lise Meitner, par exemple, qui a découvert la fission d'uranium-235.
Rosalind Franklin.
Voilà, Rosalind Franklin, d'autres pour des astronomes notamment.
Ouais,
mais est-ce qu'on arriverait à...
Non, je crois pas, parce que la faible proportion des femmes qui ont fait des études et qui ont pu mener la recherche. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y avait des lois anti-népotisme aussi qui faisaient que les femmes n'avaient pas le droit de travailler, d'avoir un poste dans la même université ou dans le même institut que leur mari. Et donc, elles étaient obligées d'avoir de travailler, souvent en étant non rémunérées ou peu rémunérées. Alors que, quand c'était d'autres membres de la famille masculin, souvent, il y avait beaucoup d'accommodements avec la règle. Si c'était le frère ou le cousin, il pouvait rester dans le même... Il avait un poste alors que la femme ne l'avait pas. Il y avait toujours un très grand décalage. Et ensuite, si c'était des femmes célibataires, souvent, on leur interdisait un certain niveau de poste. Elles avaient beaucoup de difficultés à avoir des postes de full professeur aux États-Unis. Elles étaient souvent reléguées à l'enseignement. Elles avaient très peu de capacité de faire de la recherche.
Ça veut dire que si on crée une chaire universitaire qui serait la chaire du génie, il faudrait dire qu'elle n'a pas de sexe. Elle doit être occupée par autant d'hommes que de femmes. Et d'ailleurs, en guise de petit cadeau, je vous donne l'anagramme de la chaire du génie. Ça donne... Claudie Aigneré.
Oh, très joli.
Voilà, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique d'Ali Yahar et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.